Asseoir et puis je vais faire la prière. Nous venons d'exhiber un chant qui nous oriente vers la croix. Quand Jésus mourait sur la croix, il y avait sa mère qui était là pour le soutenir avec sa présence. Aujourd'hui, on va faire un Je vous salue Marie pour demander à Marie de nous conduire toujours à son Fils, de nous aider à connaître davantage son Fils, de l'accueillir à tout moment. Comme elle l'avait fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà que nous sommes au deuxième soir de notre réflexion, de notre retraite qui porte le titre « Pour toi, qui est le Christ ?». Nous voulons profiter de ce temps de carême pour approfondir notre connaissance de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles le carême a été conçu, c'est connaître davantage Jésus-Christ. C'est approfondir notre connaissance de Jésus-Christ. Alors, le chemin que nous avons pris est celui de questionnement. Nous sommes rendus compte hier que souvent, autour de la personne de Jésus, il y a des questions qui se posent. Qui est donc celui-là? Tout le temps. Et en définitive, Jésus lui-même, nous avons fini hier, il pose lui-même la question sur sa personne, sur son identité. Il pose la question à ses disciples, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Et finalement, il dit, mais vous, pour vous, qui suis-je? Mais cette question-là s'adresse à chacun, chacune d'entre nous, qu'il faut la répondre avec nos convictions personnelles. C'est étrange, je me rappelle le père Jacques Leuf, un Français dominicain. En fait, il est décédé à l'aube de l'an 2000. Leuf, quand j'étais jeune, quand on me disait Jacques Leuf, moi j'ai pensé l'œuf de la poule. Hein, vous m'avez écrivé. Mais en fait, l'œuf, c'est elle. O-E-W. En tout cas, toujours est-il que Jacques Leuf, a une fois, il raconte qu'à Paris, il revient à la maison et puis il trouve un message disant que la secrétaire d'État du Vatican voudrait que tu la rappelles le plus tôt possible. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors le lendemain, il appelle et en fait, on lui dit, ok, l'évêque voulait te parler, attends une minute, on va te le passer. On lui passe l'évêque, c'était le pape Paul VI. Nous sommes en 1970. Alors le pape Paul VI lui propose de venir prêcher une retraite au Vatican. La retraite devait commencer le 21 février et Jacques Leuf n'avait que 4 semaines pour préparer. Alors lui, dans sa réflexion, il dit, quand le pape te demande quelque chose, est-ce que tu peux refuser? En tout cas, toujours est-il qu'il a accepté et il avait 22 leçons à donner, chaque leçon de 30 minutes au Vatican. Alors, une de ces leçons-là, il a choisi notre texte à nous. Pour vous, qui suis-je? Alors, dans ce développement, il dit aux évêques, aux prêtres qui étaient au-devant de lui, il dit, vous savez là, pour nous, évêques, prêtres, c'est très facile, hein? On te pose la question, qui est Jésus-Christ? On a tendance à répondre avec des formules dogmatiques. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Messie. Il dit, c'est bien, mais il faudrait quand même que chaque prêtre, chaque évêque arrive à partir de son expérience à nous dire qui est Jésus selon lui. Selon son expérience qu'il a vécue, la rencontre qu'il a faite avec Jésus. Qui est Jésus pour toi? Qui est le Christ pour toi? Disait-il aux évêques, aux cardinaux à ce moment-là. Et moi, je crois que cette question nous revient à chacun, à chacune d'entre nous. Ce n'est pas mauvais d'utiliser les formules stéréotypées, les formules dogmatiques, ce n'est pas mauvais. Mais il faudrait que si tu as choisi la formule dogmatique, il faudrait que ça exprime ton expérience, ça dise vraiment ton expérience, ce que tu vis avec Jésus, avec le Christ. Voilà pourquoi il faudrait que, au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, nous croissons dans la foi, il faudrait que chacun, chacune de nous arrive à formuler sa foi en Jésus-Christ, arrive à dire pour toi qui est Jésus-Christ. Vous vous rappelez au chapitre 24 de l'évangile de Luc, l'histoire de deux disciples d'Emmaüs. Alors, ils sont déçus, ils sont en route, les deux disciples, ils quittent Jérusalem, ils vont chez eux, au village, à l'Emmaüs. En cours de route, ils rencontrent cet étranger-là. Et l'étranger le regarde, il voit qu'ils sont tristes. Nous, en tout cas, à l'école, on nous disait que quand on est triste, on a un visage long. Voilà. Alors, ils avaient de longues faces. Alors, Jésus pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous triste comme ça? Alors, il dit, mais toi, tu n'es au courant de rien, tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Alors, le texte dit, à partir de ce moment-là, Jésus va commencer à leur parler de lui-même, sans qu'eux le sachent. Il va commencer à parler du Christ, ses servants de la loi et des prophètes. Donc, ses servants de toute la Bible, il les a parlé et montré comment les différentes sections de la Bible le concernaient. En commençant avec Moïse et tous les personnages bibliques, il montrait comment tout cela convergeait vers le Christ. Une manière de comprendre, de connaître le Christ, c'est de se servir de la parole de Dieu, justement, et de voir comment déjà à partir de l'Ancien Testament, le Seigneur a commencé à préparer petit à petit nos cœurs, a commencé à préparer l'humanité à accueillir son Fils, à recevoir son Fils. Et voilà que quand on pose la question aux apôtres, justement, Jésus pose la question, les gens, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Alors on commence à lui citer des personnages bibliques. On dit que tu es Élie. On dit que tu es Jérémie. On dit que tu es Jean-Baptiste, que tu es l'un des prophètes. Mais maintenant, on ne peut pas dire que c'est complètement à côté. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de Jérémie, à partir d'Élie, à partir des autres prophètes, nous pouvons arriver à Jésus-Christ. En d'autres termes, il y a en Jésus-Christ, dans le Christ, il y a du Jean-Baptiste, il y a du Élie, il y a du Jérémie, et il y a du n'importe quel prophète. Alors c'est ce qu'il faut essayer de découvrir justement pour arriver à creuser notre connaissance de Jésus-Christ, en nous servant des personnages en servant des prophètes de l'Ancien Testament. J'ai fait mon école primaire chez les Salésiens, les Pères Salésiens, et nous avons un cours de catéchisme. Je me rappelle qu'en sixième primaire, dans notre catéchisme, dans notre cours, il y avait toujours des questions après un texte qu'on nous présentait. Quand c'était l'histoire de Joseph, quand c'était l'histoire de David, quand c'était l'histoire de Jérémie, il y avait toujours une question qui ne manque pas. Une des questions disait, quelle est la comparaison que tu peux faire entre Jésus et Jérémie, entre Jésus et Joseph, entre Jésus et David? Chaque fois qu'il y avait ça, on va. Alors nous, c'était la question la plus difficile. Alors on posait la question au professeur, notre enseignant, il bricolait aussi, c'était difficile. Alors une fois, il nous a fait amener le prêtre qui était directeur, le père Michel, je me rappelle encore son premier nom, il dit, venez répondre aux questions des enfants. Tandis que le père Michel est venu dans notre classe, alors tout le temps les élèves disaient, la différence ou la comparaison, le rapport entre Jésus et David, il répond. La différence, la comparaison entre Jésus et Joseph, il répond, etc., etc. Mais moi, je trouve que c'est une belle façon, en fait, de bien comprendre, de bien cerner l'identité de Jésus. Alors maintenant, si les autres personnes ont comparé Jésus à Élie, mais il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a, quelle est la dimension d'Élie qu'on peut déceler chez Jésus. Alors, quand tu regardes dans le Nouveau Testament, les auteurs veulent nous fournir des enseignements sur Jésus, de l'information sur Jésus. Et ils se servent souvent des images de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, pour arriver à creuser, à nous faire comprendre qui est Jésus-Christ, pour arriver à dessiner, comme il se doit, l'identité de Jésus, pour arriver vraiment à nous la faire comprendre. Prenons le cas d'Élie. Regardez, Élie, c'est un des grands prophètes de l'Ancienne Alliance. Même si il n'y a pas de livre, il n'a pas écrit des livres, Élie. Quand tu vas dans le livre des prophètes, dans la Bible, tu vas trouver ce qu'on appelle les petits prophètes et les grands prophètes. Les petits prophètes, ils ne sont pas petits parce qu'ils n'ont pas été importants, non. Ils sont petits parce que leur livre est tout petit. C'est de 5-6 chapitres. Les grands prophètes, ce sont comme Isaïe, Jérémie, Zacharie, parce que ce sont de gros livres, on les appelle les grands prophètes. Alors Élie, il n'est pas parmi ces prophètes-là. Par contre, Élie est un grand prophète de la tradition hébraïque. Il avait occupé une place centrale dans la conscience hébraïque. Alors tout le monde parlait d'Élie et nous connaissons l'histoire. Élie, d'après la tradition hébraïque, il n'a jamais connu de mort. Élie, quand le moment est arrivé, Dieu est venu l'enlever sur un char et l'amener au ciel. Donc ça, c'est la croyance du peuple hébraïque. Maintenant, une chose qui s'est passée dans la vie d'Élie, c'est qu'il a annoncé une sécheresse au pays. Et la sécheresse est effectivement arrivée. Maintenant, il va prendre fuite pour aller vivre dans des grottes où il sera nourri par un corbeau et qui lui amènera aussi de l'eau. Mais à un moment donné, tout va périr, plus rien à manger. C'est ainsi qu'Élie va rencontrer cette veuve qu'on appelle la veuve de Sarepta et qui avait un enfant. Elle était sur le bord de la famine parce qu'il ne lui restait que très peu de farine pour faire et puis manger avec son fils. Et c'est tout, avec un peu d'huile. Élie arrive, il demande à manger. Elle dit, mais non, on n'a presque plus rien. Il dit, m'excuse, on n'a presque plus rien. Elle dit, donne, tu vas voir ce qui va arriver. La femme a confiance. Elle prépare du pain pour Élie. Élie mange. La farine ne tarit pas, ne se termine pas. Elle est toujours là. Elle prépare, la farine est toujours là. Ça renvoie à la multiplication de pain de Jésus. Donc, pour dire que Élie, lui, là, il a comme multiplié le pain pour une dame. Mais quand tu vas chez Jésus, 5000 personnes, nous dit les évangiles. C'est pour dire, écoutez, Jésus est comme Élie, mais il est plus grand que Élie. Il faut aller plus haut. La même chose, à un moment donné, cet enfant-là, qui était avec la veuve, va tomber malade. Mourir même. Alors la veuve va vouloir retrouver Élie. Quand il le retrouve, il dit, viens voir mon fils, peux-tu faire quelque chose pour lui? Parce qu'Élie logeait au-dessus de la chambre, au-dessus de la maison, je veux dire. Finalement, Élie va arriver à prier sur l'enfant, mais ça va prendre des heures. Il va se coucher sur l'enfant, il va essayer de faire des exercices à l'enfant, ça prendra des heures. Finalement, l'enfant va retrouver la vie, il va commencer à vivre. Jésus, l'histoire de la fille de Jaïr, un chef de la synagogue va voir Jésus. « Seigneur, ma fille est malade, est-ce que tu peux venir la guérir ?» Jésus accepte, il y a beaucoup de mouvements en cours de route, il est en retard. On vient dire au chef de la synagogue, Jaïr, « Écoute, laisse tranquille le maître, ta fille vient de décéder. » Jésus dit, « Écoute, non, on va y aller. » Qu'est-ce que Jésus fait? Quand il arrive au-dessus, il dit « Talitakum » dans sa langue hébraïque. « Petite fille, lève-toi. » Ce n'est pas comme Élie. Hein? Élie a passé des heures pour ressusciter, il a passé des heures à prier, à toucher la fille, à faire. Jésus arrive, « Lève-toi. » Et la fille s'élève. Donc, c'est pour montrer justement, l'auteur veut dire, écoutez, regardez là, nous avons ici plus que Élie. Jésus est plus que Élie, il est au-dessus, c'est là qu'il faut aller le placer. Donc, l'enseignement qu'on nous présente, qu'on nous propose, en fait, qui est Jésus? Il n'est pas Élie. C'est pourquoi Jésus, veut, on va dire, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, il dit, non, mais pour vous, qui suis-je? Comme s'il avait une insatisfaction dans la réponse. Alors, il y a l'autre chose aussi, c'est quand on prend Jérémie. Il dit, tu es Jérémie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Jérémie? Deux choses. Quand le Seigneur parle de Jérémie, il dit que Jérémie, toi là, quand tu étais dans le sein maternel, je t'ai pointé du doigt, je t'ai choisi, j'ai fait de toi un prophète. Mais Jésus, c'est vrai que dans le sein maternel, il était fils de Dieu, il avait été choisi. Mais Jean nous dit, le Verbe était chair et le Verbe était Dieu. Il habitait avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il s'est fait chair, le Verbe de Dieu. Donc, une préexistence, c'est plus que Jérémie, ici, voyez-vous. Alors, c'est pour dire que cette appellation-là, cette affirmation de dire que depuis le sein de ta mère, je t'ai aimé, je t'ai élu, je t'ai choisi et je t'ai appelé. Moi, je me dis, cela s'adresse à vous, à chacun, chacune d'entre nous. Ce n'est pas par hasard qu'on vit là. Il ne faut pas penser que dans ce monde, on est là par hasard. Nous sommes là parce que Dieu nous a voulu, Dieu nous a aimés, il nous a pointé du doigt. Voilà pourquoi il nous a appelés. Non, nous avons de l'importance devant les yeux de Dieu. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes dans le sillage de son Fils Jésus-Christ. Et comme Jérémie, donc, Dieu nous a pointé du doigt et il nous a fait vivre, entrer dans son amour, pas par coup de chance, mais parce qu'il nous désirait depuis toute éternité. Nous étions dans le cœur de Dieu. Alors quand on étudiait la philosophie, on disait, écoutez, parfois il y a des idées, on est dans les idées. On n'existe pas encore, mais on est dans les idées, on est dans la pensée. Nous autres là, chacun de nous a toujours été dans la pensée de Dieu. La figure, l'image de chacun d'entre nous, avons toujours été dans l'image de Dieu, dans la pensée de Dieu, jusqu'au jour où il nous a appelés à l'existence. Peut-être qu'on va s'arrêter pour une pause, une musique, puis on va continuer avec nos réflexions. Peut-être qu'on peut se mettre debout. Une fois le Seigneur est dans la foule, et puis on lui demande des signes pour qu'on continue à croire davantage en lui. Alors il dit des signes, vous n'en aurez pas d'autres que celui de Jonas. Parce que de même que les gens de Ninive, les Ninivites, ont cru à Jonas, à la prédication de Jonas et se sont convertis, eh bien, de même, c'est sûr que les gens qui vont entendre le Seigneur, qui est le nouveau Jonas, vont aussi se convertir. Parce que les gens se sont convertis, alors vous verrez qu'à la fin des temps, les gens de Ninive vont se lever et vont condamner cette génération où je suis maintenant. Il va dire, nous avons cru à Jonas, mais comment ça se fait qu'on n'avait pas cru au Fils de Dieu? Parce qu'ici, il y a plus que Jonas, va-t-il dire. La reine des Saba, dit-il, elle est venue de l'Éthiopie, de très loin là, parce qu'elle avait entendu parler de la grande sagesse de Salomon. Elle a fait ce voyage-là pour aller voir Salomon et s'éduquer à sa sagesse. Au jour dernier, eh bien, elle s'élèvera et condamnera cette génération parce que la génération d'ici n'a pas cru au Fils de Dieu et pourtant elle avait cru à Salomon. Elle a parti, elle a fait tous les voyages pour Salomon. Et ici, il y a plus que Salomon, dit le Seigneur. Alors moi, je continue la liste. Parce qu'ici, il y a plus grand qu'Élie. Parce qu'ici, il y a plus grand que Jérémie. Parce qu'ici, il y a plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'ici, il y a plus grand que Moïse. Alors, le Christ, il est plus grand que tout cela. Parce que quand, avec les disciples de l'Emmaüs, il explique à partir des Écritures qui il est, comment on aboutit à lui, eh bien, il faut tenir compte de tous ces personnages-là. Alors, quand je parlais de Jérémie, disant qu'en fait, c'est chacun, chacune d'entre nous qui avons été élus, choisis, aimés par Dieu depuis le sein maternel, c'est pour dire que dans notre vie, il ne faut pas penser que tout est hasard, tout est hasard. Maintenant, il ne faut pas non plus dire, à chaque bout que je fais là, Dieu est en train de me guider, il n'y a pas de liberté. Ce n'est pas ça du tout. C'est que le croyant accepte que dans sa vie, il y a la main de Dieu. Regardez, on vient de chanter sur la croix, un chant sur la croix. Est-ce que Dieu voulait que Jésus meure sur la croix? Du tout. Son fils est venu, c'est vrai. Il est venu avec sa mission. La mission de son fils de montrer l'amour pour le Père, de prêcher la conversion, l'a conduit à la mort sur la croix. Qu'est-ce que Dieu fait? Il accompagne son fils dans la mort. Quelle est la manière d'accompagner? Eh bien, il a ressuscité son fils. Mais plus encore, il a fait de la croix qui était l'objet de mépris, il a fait de cet objet-là l'objet de salut. C'est vous qui faites ça, c'est moi, c'est l'Église, c'est Dieu qui transforme la croix, qui devient objet de salut, alors que c'était objet d'ignominie. Et Dieu n'a pas voulu la mort de Jésus. La mort est arrivée, mais Dieu n'est pas absent. Il sait comment transformer les choses. Comme on dit, avec le mal, Dieu sait aboutir le bien. Le mal de la mort de Jésus, de la crucifixion, est devenu source d'amour, source de salut. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui transforme. La même chose, dans notre vie, nous cheminons, nous pouvons nous buter contre des moments difficiles, des maladies incurables, des difficultés dans la famille, des divisions, des difficultés dans la vie de couple. On peut vivre ces choses-là. Mais dans notre vie, nous ne disons pas que Dieu nous abandonne, que nous vivons au hasard, que ce sont des choses au hasard. Il y a toujours la main de Dieu là. Il y a Dieu qui nous protège, qui nous guide. Et souvent, on est étonné comment Dieu va nous faire sortir d'un marasme, d'une difficulté, d'un désordre social. Le Seigneur, sa main est toujours là, elle guide. Moi, personnellement, parce qu'il faut parfois faire des petits témoignages, avec ma foi personnelle, avec la petite foi aussi que j'ai, quand je regarde dans ma vie de prêtrise, jusqu'à présent, les nominations que j'ai reçues, je ne les ai jamais soupçonnées. Ça a toujours été une surprise. Et moi, depuis le Congo, les nominations que j'ai eues au Congo jusqu'à aujourd'hui, je me dis, la nomination arrive. Finalement, dans mon expérience spirituelle, je me dis, il y a la main de Dieu, probablement que c'est l'appel de Dieu. Alors, je vais suivre ça. Je regarde, je ne peux pas citer toutes les nominations, je regarde à un moment donné, quand j'étais curé à St. Peter's. D'abord, c'était une surprise à St. Peter's quand j'ai été nommé là-bas. Je ne connaissais même pas où se trouvait St. Peter's. Je ne savais même pas, ici à Ottawa. Alors, quand j'ai été nommé, alors j'ai pris l'auto, je suis parti voir un peu où se situait l'église et où vivaient les prêtres. Les prêtres vivaient dans une maison sur 40 Angela. Là, je suis parti voir Angela 40, c'était quel type de maison où les prêtres où je devais habiter. Je ne savais rien. Mais ma grande surprise, c'est que j'ai fait 5 ans à St. Peter's, 5 ans, 6 mois. Ce jour-là, j'étais en train de parler avec Monseigneur Gervais. Il me dit, Jacques, qu'est-ce que tu ne peux pas considérer de devenir recteur à la cathédrale d'Ottawa? Il dit, moi? Il dit, oui, est-ce que tu peux y penser? Puis on pourra encore en reparler. Si, quand je suis arrivé au Canada, tu m'avais dit, un jour tu deviendras recteur de la cathédrale, je t'aurais dit, mais, oui, mais tu n'as pas ta tête sur la bonne place. Donc, pour dire que, ce que je veux dire, c'est ceci. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, on ne sait pas comment ça arrive. Mais moi, personnellement, dans mon expérience de prêtrise, des choses qui me sont arrivées, surtout dans les nominations, moi, je vois la main de Dieu. Parce que ce sont des choses auxquelles je ne pensais pas, que je ne pouvais jamais imaginer. Un deuxième exemple. Je suis ici à Saint-Gabriel, et puis Monseigneur Pentecost, ça fait peut-être 4 ans, il vient faire les confirmations. Il a fini les confirmations, nous sommes au presbytère, il me dit, Jacques, est-ce que je peux te parler quelques minutes, est-ce qu'on peut aller quelque part pour parler les deux? J'ai dit, ok. Alors on est parti en haut, dans le salon, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, écoute, il y a le prononce d'Ottawa, le nonce apostolique, qui voudrait avoir un secrétaire francophone. Je me disais, est-ce que tu ne peux pas y aller? Et puis, il dit, bah, moi, je ne sais pas comment je vais faire paroisse. Il dit, non, non, va là-bas, essaye, puis si ça ne tourne pas, bah, tu le sauras. En tout cas, j'ai essayé pendant une année comme secrétaire francophone du nonce qui n'est plus là maintenant, il est déjà parti. De toute façon, les choses ont tourné que finalement le nonce devient un secrétaire qui laisse là, qui habite là-bas tout le temps. Enfin, j'ai fait ma part. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu m'avais dit ici à Saint-Gabriel qu'un jour, en étant Saint-Gabriel, tu vas faire le travail de secrétariat à l'annonciature, je te dis, mais de quoi tu parles? Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Dans la vie, moi, je crois que les exemples que je donne peuvent se vérifier dans la vie, l'existence de chacun, chacune d'entre nous. Il y a des choses qui nous arrivent et plus tard, on voit la main de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que, comme chrétien, il ne faut pas penser toujours que tout est hasard. Ce ne sont pas des choses de hasard. Il y a la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est la main qui nous guide et qui nous conduit. Donc, il y a du Jérémie en nous. Et en Jésus, il y a plus que Jérémie. Voyez-vous? La dernière figure, c'est Jean-Baptiste. Alors les gens disaient que Jésus était Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était tellement aimé à ce moment-là. Il était populaire et il avait enseigné le baptême de la conversion, il donnait le baptême d'eau et puis les gens allaient à lui, les gens se ruaient vers lui. Et il y en a qui le prenaient pour le Messie. Et Jean clairement a dit, non, je ne suis pas le Messie. Moi, je ne suis pas digne de dérouer les sandales, de dénouer le sandale du Messie. Donc je suis comme un esclave. Parce que cet exemple-là, ça résonnait bien. Parce que les gens de ce temps-là étaient déjà habitués à voir ces statues qu'on voyait au moment de Jésus, au temps de Jésus, dans certains palais. Tu voyais un esclave avec les sandales en main, à genoux, qui veut habiller les pieds, mettre les pieds, le mettre sous le pied d'un roi ou d'un patron, d'un responsable, voyez-vous. Alors, Saint-Baptiste, Jean-Baptiste veut dire qu'il est moins qu'un esclave. Il est en dessous d'un esclave, par rapport au Messie. Voilà. Donc, pour dire que celui qu'on pensait qu'il était Messie, honnêtement, il dit qu'il ne l'était pas. Alors là, on voit comment Jésus est plus que Jean-Baptiste. Et ça, c'est ce qu'on montre surtout quand tu regardes chez Luc. Jean-Baptiste, on dira, qu'est-ce qui va arriver à cet homme-là? Quand on a découvert après qu'il est né de Zacharie le prêtre et de sa mère qui était stérile. Et puis les signes qui sont sortis. Mais quand on regarde chez Jésus, mais Jésus, lui, est venu du Saint-Esprit. Donc il est plus que Jean-Baptiste. Il est venu du Saint-Esprit. Et Jésus, lui, eh bien, il est né et les anges sont venus du ciel pour chanter, pour montrer qu'il est plus grand que Jean le Baptiste. Donc, pour dire, mes amis, si nous voulons revenir dans l'histoire du salut, dans l'ancienne alliance, dans ce qu'on appelle la Bible, Nous devons nous servir de certains personnages. Tous ces personnages-là peuvent nous conduire vers Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a, comme je l'ai dit, du Jean-Baptiste, il y a du Élie, il y a du Jérémie, etc., etc. Maintenant, il nous revient à voir comment nous allons nous servir de toutes ces images-là pour creuser davantage notre connaissance de Jésus-Christ. Parce que ce qu'on va commencer déjà demain, je fais le pont, ce que nous allons dire finalement, c'est que dans la déclaration de Pierre, par exemple, Jésus est le Messie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tu dis à quelqu'un, Jésus est Messie. Est-ce que moi, il le comprend? Eh bien, le Messie, c'est ça qu'on va essayer de décortiquer demain, mais le Messie, c'est loin de Dieu. Celui qui a reçu l'onction de Dieu. Celui qui a reçu, en fait, l'Esprit Saint. Mais le Messie, c'est toujours un élu de Dieu avec une mission spécifique. Il y avait plusieurs Messies. Le roi pouvait être appelé Messie parce que, étymologiquement, le mot Messie veut tout simplement dire loin. C'est lui qui a reçu l'onction. Alors le roi, pour devenir roi en Israël, tu devais recevoir l'onction. Pour exercer le ministère de prophète, tu devais recevoir l'onction. Pour exercer le ministère de prêtre au temple, tu devais recevoir l'onction. Comme tu recevais l'onction, tu étais loin. Tu étais un Messie. Mais maintenant, le Messie qu'on attendait, c'était le Messie avec un grand M. Parce que ce Messie-là venait de Dieu. Alors, ce que Pierre veut dire, il dit, c'est toi qu'on attendait. Comme on s'est dit hier, Jean-Baptiste demandait, est-ce que c'est toi qui dois venir ou devons-nous attendre un autre? C'est toi qu'on attendait, tu es le Messie avec le grand M, tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire, est-ce que Jésus a reçu l'onction, comme le prêtre, comme le roi, comme le prophète? Non, c'est une onction spirituelle qui dépasse celle du roi, celle du prophète et celle du prêtre. Donc Jésus a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Il était baigné dans l'Esprit Saint, il est né dans l'Esprit Saint, il a toujours fonctionné en accord avec l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il est Messie. Donc il est de Dieu. Et voilà ce que nous avons essayé de développer davantage demain et voir les conséquences de ça. Si nous acceptons que Jésus est Messie, qu'est-ce qui arrive alors dans notre vie? Où est-ce que nous allons regarder? C'est cela. Alors on va s'arrêter ici, donc pour vous dire que chacun, chacune, continue à creuser, à se poser la question pour toi, qui est le Christ? À partir de ce qu'on a ramassé, te pose la question et tu essaies d'y répondre aujourd'hui. Alors voilà ce qu'on va faire. D'ici là, il y aura un chant et pendant ce chant, on va préparer le Saint-Sacrement. On va adorer le Saint-Sacrement jusqu'à peu près à 8 heures et puis il y aura la bénédiction avec le Saint-Sacrement. Et nous allons nous séparer pour revenir demain. Demain, on fait la même chose, une prédication, peut-être 35-40 minutes. Ensuite, on passe la quête comme on le fait chaque année. Il y a toujours une quête qu'on passe durant la retraite. Et il y aura la réception en arrière pour continuer à fraterniser après notre retraite. Merci.